nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au
cœur. Content de te recevoir pour cette émission un petit peu confinée de début d'année. À ton retour, donc, dans le cadre de ton travail pour les Deux Rives, alors je ne sais pas comment tu es l'éditeur, tu es le rédacteur en chef, quel est ton titre dans les Deux Rives?
Bon, ben, bonjour Bernard, bonne année déjà, merci, bonne année à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, sur Radio Galère et puis sur les réseaux et partout où vous pouvez écouter cette émission. Je dis le coordinateur. Voilà, puisqu'il y a aussi tout un travail bénévole de traduction, voilà, et d'apport aussi de certains articles. Donc voilà, je suis le coordinateur donc du site lesdeuxrives.info, qui est un site francophone d'information sur l'Amérique latine, avec une autre information, un autre point de vue, un autre regard par rapport à ce qu'on peut trouver dans les médias dominants. Je pense que je ne sais pas si vous n'êtes pas obligé en tout cas de nous croire sur parole, mais au moins ça donne un contrepoids pour que vous puissiez forger votre propre opinion sur ce qui se passe sur ce continent, les enjeux politiques, économiques, sociaux, culturels. Voilà, il y a un contrepoids qui permet de forger sa propre opinion. Je crois que c'est très important, plutôt que de croire l'un, l'autre, etc. Autant lire et écouter plusieurs opinions et puis se forger son propre point de vue. Donc voilà, sur les deux rives, vous avez un point de vue radicalement différent à ce qu'on trouve dans les médias mainstream.
En rôle de coordinateur et de fondateur, quand même. Ne t'enlevons pas ce mérite.
Aussi, aussi.
Et donc, ce travail pour les deux rives t'amène à voyager sur le terrain que tu connais, mais à y retourner souvent. Et tu reviens là d'un voyage au Venezuela qui t'a donné l'occasion de faire une escale un peu prolongée après ce que j'ai compris avec.
Voilà, exactement.
Commençons par ces deux pays.
Voilà. Alors déjà, évidemment, je remercie tous les contributeurs du site parce que c'est aussi grâce à eux que... Ouais. On peut financer des reportages sur le terrain, le transport, la logistique, la nourriture logement et tout ça. C'est évidemment, ça a un coût, l'information a un coût. Ouais. On essaie de la réduire au maximum dans les deux rives pour ne pas charger, puisque aucun milliardaire ni aucun État ne finance les deux rives. Donc nous comptons sur ces contributeurs et c'est grâce à eux, effectivement, que... je suis allé au Venezuela pour couvrir donc les élections parlementaires. Et puis donc il y a eu une escale. Alors c'est plus une escale puisque c'était quasiment 72 heures donc à Mexico, alors la capitale du Mexique.
Imprévu quand même.
Improbable et imprévu, mais donc. Ça nous a donné l'occasion de ne pas défrauder nos contributeurs et de faire des reportages au Mexique, des interviews, d'écouter la parole de ceux qui vivent la quatrième transformation, comme l'appelle le président Andrés Manuel López Obrador. Non, on n'en parle pas souvent du Mexique, pourtant c'est un pays gigantesque déjà. Très intéressant.
C'est obligé de vivre à côté d'un voisin un peu envahissant.
Voilà, comme on entend dire, non, trop loin de Dieu et trop près des États-Unis. Mais c'est un pays fascinant et avec un processus politique donc depuis 2 ans maintenant, est très très intéressant et qui ne ressemble pas, n'est pas le calque de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays. Aucun d'ailleurs pays n'est le calque d'un autre, hein. Ça c'est la presse mainstream qui laisserait entendre que le Venezuela est le calque de Cuba, que la Bolivie était le calque du Venezuela. En réalité, il y a des disparités culturelles d'abord, hein, qui rendent impossible ce type de calque, et puis évidemment les structures économiques du pays, etc. Et effectivement, le Mexique gagne à être connu, donc là... d'ici quelques temps sur les deux rives on fera évidemment un spécial Mexique. Toujours est-il que donc on a pu voir aussi, puisque donc je suis allé donc en décembre 2020, donc on était en plein dans la pandémie,
hein. Oui.
Et alors on se rappelle que le Mexique avait été un des pays qui a confiné un peu en dernier, hein. Ils ont essayé de repousser l'échéance le plus tard possible. Alors tout de suite on a dit oh là, regardez, il y a énormément de morts, etc. Donc je crois que c'est important de rappeler qu'ils sont aussi 150 millions d'habitants, donc si on prend en proportion de la population, le Mexique est loin d'être le pire pays d'Amérique latine en matière de gestion sanitaire, hein. Les pays les mauvais élèves, on va dire, on en parlera, mais sont plutôt à chercher du côté du Pérou et de l'Équateur. Et en fait, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que personne ne tout le monde a le masque. L'État, par rapport à ce qu'on a pu discuter avec soit des responsables politiques ou soit des gens des citoyens de Mexico, c'est que l'État est quand même présent hein, et fait en sorte que l'épidémie ne prenne pas. Il y a eu un confinement aussi, le plus tardif possible, et puis bon, il y a les mesures de distanciation sociale, sanitaire, mais il n'empêche que au moment où moi j'y étais, les commerces n'étaient pas fermés, les restaurants n'étaient pas fermés. Évidemment, vous rentrez dans un restaurant ou un bouge pour manger un tacos, on vous fait vous désinfecter les mains, etc. On ne vous met pas sur une table à côté d'un autre, non. Alors, on va dire, peut-être des précautions de bon sens, mais en tout cas, les commerces n'étaient pas fermés. Ils l'ont été quand ils ont été confinés. Ils ont eu un moment de confinement comme on l'a vu en Europe. Alors, ce qui est toujours dans certains pays du Sud très compliqué, puisqu'il y a des personnes qui vivent au jour le jour, hein, voilà. Notamment dans le commerce informel. Mais toujours est-il que ça faisait une assez grande différence finalement avec Marseille, où les restaurants étaient fermés à la même époque. Et en ayant d'ailleurs des taux, alors je ne parle pas pour Marseille, mais pour la France, mais des taux effectivement de mortalité un peu plus importants qu'au Mexique. Et du Mexique, donc on a repris un avion après pour le Venezuela. Alors c'était une odyssée, puisque je rappelle, j'en profite toujours pour rappeler que le Venezuela est un pays sous blocus, que la compagnie aérienne publique a été sanctionnée à la demande de Guaido l'année dernière. On se rappelle d'ailleurs que Guaido avait été accueilli sous les colibés des employés de la compagnie aérienne publique lorsqu'il était revenu à Caracas après sa tournée aux États-Unis et dans les pays qui suivent la politique étrangère de Washington. On se rappelle des images. Il avait été un petit peu chahuté, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il avait expressément demandé que cette compagnie soit sanctionnée. Et donc, les gens ont craint, à juste titre d'ailleurs, pour leur emploi, leurs proches, etc. Ils lui ont manifesté de manière franche leur désaccord avec cette politique criminelle que soutient une des personnes dont vous allez certainement oublier le nom dans les prochains mois, parce que je pense qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps en tant que pour jouer ce rôle macabre de façade pseudo-légale pour que les puissances pillent le Venezuela. Toujours est-il que il y a très peu donc de compagnies aériennes qui vont au Venezuela par peur des sanctions. Et puis pour des raisons sanitaires, le président Maduro et le gouvernement n'ont pas voulu réouvrir complètement l'espace aérien avec le Venezuela, et donc il n'y a que 5 compagnies qui font la jonction avec le Venezuela, ce qui permet d'avoir un véritable contrôle sanitaire à l'arrivée. J'en parlerai après. Et donc là, en ce qui concerne, depuis le Mexique, un charter de la compagnie aérienne publique vénézuélienne, puisque le Mexique donc passe outre pour le coup la sanction faite à la compagnie aérienne qu'on dit à ça.
C'est à souligner.
Donc c'est par cette compagnie que nous avons pu atterrir à Caracas. Et alors, quand vous atterrissez à Caracas, ce qui est important déjà, c'est que juste avant le départ, on nous a fait un test. Alors qu'on nous avait déjà demandé d'en faire un dans notre pays d'origine. J'ai été à l'IHU à Marseille, donc j'avais mon test. On nous en a refait un avant de reprendre l'avion pour Caracas. Et lorsqu'on est arrivé, immédiatement, donc, on avait les tests donc, pour montrer que tout le monde était négatif hein, dans l'avion. Sinon, on n'aurait pas décollé. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc, dès que vous arrivez à Caracas, on vous prend la température, vous passez dans des sas de décontamination avant d'arriver aux douanes. Les chaussures sont trempées dans un liquide de désinfection. Enfin, c'est assez étonnant. Chose qu'on ne voit pas à Roissy. Hein,
exactement, très très sérieux. Ouais.
Et en fait, c'est le modus operandi à peu près partout. C'est-à-dire que dès l'instant où vous allez rentrer dans un commerce, dans une institution, public, une grande entreprise privée, un hôtel, etc. Soit vous avez des sas de décontamination. Hein, par exemple, j'étais à Télésour, la chaîne latino-américaine. Avant l'entrée principale, vous passez dans un pshht, alors ça, pshht, ça veut pas dire grand chose à la radio, mais vous passez dans un sas, un peu comme
les,
c'est ça, un espèce de brumisateur qui vous asperge de produits désinfectants avec sur vos chaussures aussi, etc. Évidemment, le masque est complètement obligatoire. Je crois que c'est aussi important de dire que dès l'arrivée, les autorités vénézuéliennes remettent à chaque personne qui arrive un kit avec un masque, du gel, etc. Et on nous en a donné aussi, lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, à tous les observateurs internationaux. Donc en fait, là, ça a doublé. C'est-à-dire que l'aéroport donne à n'importe qui. Et puis, on en a eu. Les masques, c'était des masques FFP2, ces fameux masques qui sont introuvables en France, sauf pour le personnel soignant. Et qui sont, j'ai compris pourquoi d'ailleurs, parce que c'est effectivement très agréable, puisqu'il y a une valve qui permet de respirer. Et donc, on voit qu'on ne rigole pas avec, avec les mesures sanitaires. Tout le monde porte le masque, mais pas sous le nez, ou quelqu'un dans la rue qui téléphone et qui l'enlève. Non. Il y a vraiment, on va dire que la population joue évidemment le jeu. Alors évidemment, on peut dire, mais pourquoi joue-t-elle le jeu? Parce que, d'une part, personne n'a envie d'avoir le Covid, personne n'a envie de contaminer ses proches, et puis les services hospitaliers ayant la qualité des services hospitaliers ayant effectivement baissé avec le comme conséquence du blocus, personne n'a envie d'être aspiré dans une spirale comme celle-là. Et donc là, on voit bien vraiment tout désinfecté, etc. C'est de manière permanente. Et on ne vous donne pas le choix. Vous entrez dans un commerce, c'est pas tiens, regardez, il y a un truc. Non, vous mettez ou vous ne rentrez pas. Et donc je pense que c'est intéressant aussi de voir comment le Venezuela a lutté contre le Covid, puisqu'il y a des très bons élèves en Amérique latine, il y en a des moins bons. Donc on va commencer par les très bons. Donc il y a l'Uruguay qui a un taux de contamination très bas et de mortalité très bas. Et puis il y a aussi les pays socialistes, Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. Alors on les a accusés. Donc, disons que l'organisation payée par un autre gouvernement, parce qu'on ne peut pas dire organisation non gouvernementale, Human Rights Watch.
Oui.
Au début de la pandémie, avait accusé le Venezuela de mentir sur les chiffres et qu'il y aurait 30 000 morts. Mais 30 000 morts dans un pays où la population est de 30 millions, on les voit, les 30 000 morts. Ouais. Je rappelle qu'en Équateur, lorsque l'Équateur avait beaucoup moins de morts que ça, les gens brûlaient des cadavres dans les rues et on a vu des images terribles. Donc ça ne peut pas être caché. Donc évidemment, là encore, on a eu une tentative de manipulation de l'opinion. Et en fait, pourquoi le Venezuela a eu des bons résultats? Eh bien, parce que il y a les organisations populaires, en fait, ont une bonne gestion du territoire. Et donc, des médecins parcouraient les quartiers. Et ils ont un système qui est un système comme la CAF, qui s'appelle le carnet de la patrie, où en fait c'est un système qui répartit des allocations publiques en fonction du revenu des personnes. Hein. Et il y a plus des. Enfin, les trois quarts des Vénézuéliens sont inscrits dans ce système-là. Et dès l'apparition du Covid, on pouvait reporter à travers ce système si on ressentait des symptômes du Covid.
Non?
Alors, bon, toux, fièvre, perte de goût, etc. Vous aviez un questionnaire et sur lequel vous pouviez vous envoyer. Et si vous aviez des symptômes, alors la brigade médicale du secteur arrivait chez vous directement pour vous faire un test, parce que ça, grâce aux Chinois, dans un premier temps, le Venezuela a pu avoir un nombre conséquent de tests PCR. Non, donc une fois encore, Je rappelle tout de même que les États-Unis et les pays qui s'adaptent et qui suivent la politique étrangère de Washington ont refusé de débloquer des crédits aux pays qui étaient sous blocus, alors le Venezuela, l'Iran et d'autres pays. Et donc la Chine a, elle, envoyé du matériel sanitaire, la Russie aussi, l'Inde aussi. Et donc ils avaient accès à la possibilité de faire des tests massifs. Et donc quand vous aviez un symptôme, une brigade médicale allait chez vous, faisait le test, et si vous étiez positif, elle vous isolait. C'est-à-dire qu'au début, ça a été dans des centres de soins qui ont été évidemment submergés assez rapidement. Et donc, l'État a réquisitionné des hôtels, des écoles et même un palais omnisport à Caracas, où l'armée a réquisitionné le palais omnisport pour mettre 5000 lits. Et les personnes qui avaient le Covid recevaient un traitement. Alors là, je ne m'avance pas, parce que il y en a eu plusieurs, en fait. Non, il y a eu effectivement l'interféron cubain. À un moment donné, il y a eu l'hydroxychloroquine. Mais en fait, les traitements évoluaient en fonction des recherches. Le Venezuela avait lui-même développé un traitement particulier pour le Covid. Donc là, je ne rentre pas dans les débats sur l'efficacité ou non. Toujours est-il que les personnes étaient isolées donc pendant 14 jours, ouais, et qu'au bout de 14 jours, on refaisait le test. S'ils étaient négatifs, ils pouvaient rentrer chez eux. Ouais. Et évidemment, personne n'a mis en exergue sa liberté personnelle, etc., pour de la construction de camps, etc., pour une raison toute simple, c'est que personne ne voulait contaminer les membres de sa famille à la maison. Et donc, tout était pris en charge par l'État, bien évidemment. Une fois que vous étiez soit dans un hôtel, soit dans un centre aménagé, une école, etc., nourri et logé, bien évidemment, pendant les 14 jours, avec des équipes de médecins qui surveillent la température, etc. Et effectivement, s'il y avait besoin de respirateurs ou quoi que ce soit, les personnes passaient. Donc, ce qui fait que le Venezuela a eu un taux de contagion assez bas par rapport au reste des pays d'Amérique latine, et un taux de décès aussi assez bas. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, il me semble qu'il est autour de 1000. Enfin, je veux dire, on est vraiment très faible. Et donc, évidemment, ça dénote, parce que en mars, il y a eu toute une campagne. Je crois qu'il faut remettre aussi en contexte. En mars 2020, il y a l'arrestation de mercenaires sur le territoire de la Colombie avec des armes qui s'apprêtaient à envahir le Venezuela. En mars, la tête de Nicolas Maduro est mise à prix, n'est-ce pas, à 15 millions de dollars. Alors 15 millions de dollars, pour vous donner un ordre d'idée, le directeur de la radio des Mille Collines au Rwanda, qui a été Kabunga, si ma mémoire est bonne, qui était poursuivi pour crime contre l'humanité, voilà, c'était 5 millions. C'est-à-dire que la tête de Maduro, qui lui n'a rien fait, c'est trois fois plus qu'un type qui a une responsabilité dans l'assassinat d'un million de ses concitoyens tutsi pour l'occasion. Donc ça, c'était le mois de mars. Au mois d'avril, le Trump déploie la flotte sur les côtes vénézuéliennes. Exact. Donc là, ça commençait à sentir le roussi. Et puis, en mois de mai, il y a eu une invasion de mercenaires et de terroristes sur les côtes vénézuéliennes. Mais je dis ça pourquoi ? C'est que ça s'est accompagné dans la presse internationale, et française en particulier, d'une campagne comme quoi le Venezuela allait contaminer, allait être le foyer épidémique. Et voilà, évidemment, c'était une des manières de justifier les actions militaires, n'est-ce pas ? Et pas de peau pour les journalistes de nos médias mainstream, c'est pour ça qu'il faut, j'invite vos lecteurs, vos auditeurs, Bernard, à aller sur les deux rives, parce que vous avez un autre point de vue, puis nous, on ne se trompe pas, pour le coup. Mais on a vu par la suite que les mauvais élèves, c'est surtout les voisins du Venezuela, notamment le Brésil et la Colombie, qui eux sont empêtrés dans une très mauvaise gestion sanitaire. Et donc, on a vu revenir notamment des émigrés vénézuéliens qui étaient partis du Venezuela pour des raisons de baisse de la qualité de vie en raison du blocus, revenir. Il y a plus de 200 000 personnes qui sont revenues parce que en Colombie, elles avaient perdu leur petit boulot, il n'y avait aucune gestion sanitaire, elles étaient livrées à elles-mêmes, elles avaient peur de mourir, tout simplement. Elles sont revenues dans un pays qui les accueillait et qui les soigne. Donc, évidemment, ça, c'est à mettre en balance. Et puis, le Brésil, alors, évidemment, le Brésil, c'est assez symptomatique aussi, puisqu'on se rappelle que Bolsonaro, donc, dans un premier temps, avait dit donc, qu'il ne s'agissait que d'une petite grippe, que lui pouvait l'avoir, comme c'était un homme athlétique et sportif, il allait s'en tirer. Je rappelle quand même qu'il est président d'un pays de 200 millions d'habitants avec des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes aptitudes physiques que lui. C'est un peu bizarre comme élément de langage. Toujours est-il que le Brésil est un État fédéré, non ? Et les États du Brésil, eux, se sont alliés dans un fait sans précédent pour établir une politique sanitaire commune entre États sans la présidence, c'est-à-dire sans le gouvernement fédéral. Effectivement, il y a eu des mesures aussi de confinement et des mesures assez proches de ce qu'on a pu voir dans le monde entier.
Je crois que c'est la même chose pour l'achat des vaccins, c'est-à-dire les États ont dit « moi je me débrouille tout seul ».
Exactement, exactement. Et alors Bolsonaro en a aussi profité en donnant des allocations publiques et en disant aux gens « regardez, eux vous confinent et vous laissent mourir, moi je vais venir à votre rescousse », qui a fait que sa popularité ne s'est pas écroulée, hein, parce que sinon je pense qu'elle se serait écroulée, mais là effectivement, avec les moyens de l'État fédéral mis non pas dans la gestion sanitaire, mais dans le clientélisme, parce que là il s'agit de ça, sa population ne s'est pas encore écroulée, bien qu'il vient d'avouer, il y a deux jours, n'être pas en capacité de résoudre la crise économique qui aujourd'hui s'abat sur le Brésil.
On s'en doute. Crise économique avec une baisse du PIB, tout ça. Et puis, on n'a pas parlé, mais il faut rappeler, c'est le moment où Bolsonaro avait mis à la porte les médecins cubains qui, dans certains états de la Fédération, étaient les seuls membres du corps médical.
Oui, il avait, alors ça c'était même, c'était avant, il avait mis à la porte les Cubains qui sont venus soigner, je crois que ça s'en rappelle, en Lombardie, en France, en Martinique, il me semble qu'il y a un contingent qui est arrivé aussi. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout un mouvement qui s'organise, notamment pour que la Brigade internationale médicale Henry Reeves, donc ces Cubains qui partent pour des missions internationalistes, soit nommé comme prix Nobel de la paix.
2021.
On peut toujours rêver, vu les bouchers, les sanguinaires qui ont reçu ce prix, mais pourquoi pas. Voilà, en tout cas, soutenons l'initiative.
Absolument, ça on l'a déjà fait sur l'antenne et il faudra le refaire intensément. Alors que la France a une petite réaction à cette proposition, c'est beaucoup plus porté en Italie, en Espagne et tout, ici ça a un peu beaucoup d'écho. Donc c'est bien qu'on en reparle.
Merci. Oui. Et puis, il y a eu aussi les mauvais élèves. Alors, les mauvais élèves, évidemment, la Colombie, l'Équateur, le Pérou. L'Équateur, on a tous vu, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, parce que, et encore une fois, c'était assez rare de trouver ces images sur des médias dominants. Alors évidemment pas les Équatoriens, hein, comme vous pouvez vous en douter, mais le virus a été importé, aurait été importé par les classes moyennes supérieures qui revenaient d'Europe.
D'accord.
Et donc la première réaction sanitaire a été de cloisonner les quartiers riches, notamment dans la ville de Guayaquil. Sauf que évidemment, ils n'ont pas pensé que tous ces gens-là ne savent pas se faire cuire un œuf, donc ils ont des cuisiniers, des domestiques, etc., qui eux rentrent chez eux. Et le problème, c'est qu'il y a eu non seulement une explosion du virus, d'abord à Guayaquil, ensuite dans le reste de l'Équateur, avec un taux de mortalité assez important. Et là, tous les services médicaux de la ville dans un premier temps et de l'Équateur se sont trouvés submergés, et puis les services funéraires aussi. Oui. Ce qui a donné ces images horribles où on voit des policiers, par exemple, utiliser des pick-up pour aller jeter dans les quartiers pauvres des cadavres de gens qui avaient le Covid, ou alors de voir des gens qui avaient eu un mort, puisqu'on vit souvent en famille, non,
oui, oui.
Surtout dans les quartiers populaires, donc avec plusieurs générations. Et quand il y avait un mort, le garder 3 jours sur le canapé, et puis à un moment donné, décider que ça ne pouvait pas... personne ne venait le chercher, et donc le brûler dans la rue, hein, mais arroser d'essence et brûler le neveu, l'oncle, la grand-mère dans la rue, c'était évidemment horrible. Le Pérou aussi a été extrêmement touché. Le Pérou, je crois, il faudrait regarder les chiffres, alors pour ne pas être polémique, je ne vais pas dire le plus, mais en tout cas, un des 5 pays le plus touché au monde par habitant, évidemment, et en Amérique latine, c'est le pays le plus touché au monde. Qu'est-ce qu'ont en dominateur commun la Colombie, l'Équateur de Lénine Moreno ou le Pérou? Eh bien, ce sont des pays qui ont adopté le néolibéralisme comme idéologie économique, pour certains depuis des décennies, et donc qui a vu les investissements, évidemment, dans la santé, dans la recherche baisser, et donc ils n'ont pas les moyens de faire face à ce type de pandémie. Et puis, dans le cas en tout cas de la Colombie, par exemple, c'est un pays qui n'a absolument pas, où l'État n'a absolument pas le contrôle du territoire. Et ça, on a vu que c'était extrêmement important. C'est-à-dire l'aspect de la souveraineté, du contrôle du territoire, dans le cas vénézuélien, par exemple, c'est ce qui a permis une lutte efficace malgré les effets du blocus sur le système hospitalier vénézuélien. Donc il y a plusieurs, et puis il y a aussi quelque chose de très important qui touche aussi la France, mais on a dit qu'on ne parlait pas de la France.
Oh, on peut l'évoquer. Mais
c'est la confiance dans les gouvernements.
Ben voilà, bien sûr.
Parce que mine de rien, quand vous êtes opposant à la révolution bolivarienne, mais que vous voyez que le gouvernement bolivarien, Nicolas Maduro, envoie des brigades de médecins chez vous, et que vous avez le grand-père qui tousse, tiens, venez faire un test, etc. Et finalement, même si vous ne l'aimez pas, quoi que ce soit, bah là, il y a eu une espèce de confiance dans le gouvernement, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et donc, cette méconfiance, ce manque de confiance fait que, effectivement, comme on peut le voir pour le coup en France, certaines mesures ne sont pas respectées, on ne croit plus rien des autorités, etc., etc. Et puis surtout, il y a eu une cohérence dans des pays comme Cuba, le Nicaragua ou le Venezuela. Il y a eu des grandes cohérences au niveau. Il n'y a pas eu de les masques servariens à les masques servariens. Non, non, ça a été immédiatement. Et je crois que c'est très important. Alors, je reviens sur le Venezuela. Il y a eu, sous l'autorité de la vice-présidence,
oui,
une espèce de commando interministériel, un peu sur le modèle de police secours, si vous voulez,
oui, oui.
Permanent, 24 heures sur 24, pour avoir le nombre de cas Covid déclarés dans tout le pays qui était actualisé, avoir une connaissance de ce qui se passait sur le territoire pour pouvoir répondre immédiatement. Je crois que ça, c'est aussi un
peu... Oui, un appareil d'État qui fonctionne.
Exactement, et qui a manqué à certains autres pays. Alors là, on peut voir, donc ils ont été, alors, en plus de ça, il y a eu des mesures terribles, parce qu'à un moment donné, il y a eu des confinements, hein. La Colombie, par exemple, a eu 7 mois de confinement. La plupart de ces pays se sont confinés quasiment en même temps que nous, donc en mars-avril 2020, et sont restés jusqu'à septembre-octobre confinés. Donc évidemment, là, ça se ressent sur l'économie, hein. La CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine, a déclaré que dans le meilleur des cas, il faudrait une décennie pour que l'Amérique latine puisse se remettre des effets sur l'économie latino-américaine. J'ai perdu le fil de mon idée, mais toujours est-il que, oui, on a pu voir en tout cas qu'il y avait des disparités dans la manière de gestion sanitaire. Et donc, comme je vois qu'on arrive à un chiffre rond,
un chiffre
on arrive
rond.
À une demi-heure.
Tu veux souffler un peu ?
Non, mais je vais boire un petit verre d'eau et puis peut-être qu'on peut aborder la question aussi de l'après, puis des vaccins aussi, puisque c'est aussi un thème intéressant.
Non, bah, de toute façon, après, je coupe le montage, t'inquiète pas. Non, autrement, on faisait une petite pause.
Nous sommes lancés.
Ça va, écoute. Donc là, on achève notre tour quand même, puisqu'il manque quelques absents dans le pôle sud.
Oui, il manque des absents. Alors, il manque déjà un absent de poids, on va dire, qui est la Bolivie.
Oui.
La gestion sanitaire de la dictature de Jeanine Agnès n'est pas étranger non plus à la victoire de Luis Arce, Dumas et des partisans d'Evo, donc en fin d'année 2020. Puisque le
gestion catastrophique,
et qui plus est, entaché de faits de corruption, avec des achats de matériel médicaux surfacturés, etc. Et en plus, ces scandales ont explosé, donc rendant évidemment la crédibilité des dirigeants à zéro, avec un fort ressentiment populaire, ce qui est à peu près normal dans ces cas-là. Et oui, comme tu dis, alors l'Uruguay est un petit pays, c'est 3 millions d'habitants, si je me trompe pas. Donc là aussi, il y a un contrôle territorial, non pas d'une part parce que le pays n'est pas très très grand, et puis il n'y a pas une population gigantesque. Donc là aussi, il y a eu des mesures qui sont faites. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que là, je vous ai cité des pays donc qui sont inclinés, en tout cas avec des inclinations socialistes, non ?
C'est pas le cas de
l'Uruguay. C'est pas le cas de l'Uruguay.
Et de
Tabaré Vázquez, qui d'ailleurs est décédé il y a peu de temps. Alors, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que depuis 2005 et la victoire de Tabaré Vázquez, puis celle de Pepe Mujica, plus connu, puis le retour de Tabaré Vázquez, il y a eu quand même 15 ans de gestion de centre-gauche qui n'a pas abandonné l'idée d'une santé publique de qualité pour tous. Donc, effectivement, le gouvernement de Lacayepou qui gère aujourd'hui l'Uruguay, qui est un gouvernement de droite libérale, a quand même pu compter sur les structures sanitaires et hospitalières mises en place précédemment. Mais tant mieux pour lui et tant mieux pour les Uruguayens, puisque effectivement l'Uruguay a eu aussi très peu de contagions, avec un chiffre de mortalité qui n'est pas, on va dire, celui du Pérou ou celui de l'Équateur.
Passons un peu plus bas, le Chili et l'Argentine alors.
Alors le Chili. Le Chili, j'ai remis dans le contexte politique du Venezuela pour l'année 2020. Je crois qu'il est important aussi de remettre dans le contexte politique chilien et équatorien et même colombien. C'était qu'en 2019, on connaît de très très fortes mobilisations populaires dans ces pays-là, et ce sont des mobilisations populaires contre l'austérité, contre le système néolibéral et contre le système politique de manière générale. En tout cas, dans le cas chilien, c'était manifeste. Et une volonté d'une grande majorité de Chiliens de tourner la page. On a eu, après un référendum sur la Constitution, réécrire une Constitution et tourner la page, puisque le Chili vit encore avec la Constitution de Pinochet. Alors, on n'est pas là pour parler de ce référendum constitutionnelle et de l'élection
de la constituante.
Alors c'est pas une constituante, justement, parce que ça mériterait que tu me réinvites. mais effectivement, là aussi, on a eu des errances aussi au niveau de la gestion. Alors d'une part, là, avec un confinement qui a été repoussé le plus tardivement possible, et puis on est dans un pays où la santé publique est pas du tout la priorité. Le Chili, c'était l'élève modèle du néolibéralisme, non seulement sur le système hospitalier, mais aussi sur les pharmacies, par exemple, et sur l'accès aux médicaments. J'avais un témoin, enfin une personne qui me racontait, alors qui est de Guayaquil, en Équateur, et qui me racontait que au début, en tout cas, lorsque l'hydroxychloroquine s'imposait en tout cas comme une possibilité de traitement, etc. Hein, je ne rentre pas, je vous dis, je ne suis pas en train de rentrer si oui, si non, etc. Mais toujours est-il que les personnes avec des forts pouvoirs d'achat ont dévalisé les pharmacies de ça, de Doliprane, de tout, et donc résultat des courses, c'était effectivement très difficile de trouver des médicaments, y compris pour d'autres
maladies.
Pour d'autres maladies. Ouais. Alors il y a un cas aussi que je voudrais évoquer, qui est assez rigolo. C'est au Nicaragua, l'opposition donc au gouvernement de Daniel Ortega a accusé le gouvernement sandiniste de maquiller les chiffres de Covid en pneumonie. Alors, c'est assez rigolo parce que on nous dit dans d'autres pays, plus au nord, qu'on maquille plutôt les chiffres de pneumonie en Covid. Et là, il se trouve que donc l'opposition accusait, donc, puisque le taux de mortalité par Covid au Nicaragua était très faible aussi, donc ils accusaient le gouvernement de faire passer des cas Covid sous des cas de pneumonie. Ce qui a amené le ministère de la Santé à publier les chiffres donc sur les 5 dernières années de morts par pneumonie, par mois, etc., etc. Je rappelle quand même que ce genre de chiffres, on ne l'a pas eu en France. Hein.
Exact.
Le nombre de morts de grippe, etc. Exact. Et en fait, de montrer que non seulement ce n'était pas vrai, mais qu'en plus, le nombre de morts par pneumonie était légèrement inférieur sur cette période de l'année par rapport à la même période de l'année d'avant, donc que c'était évidemment impossible d'avoir mis des chiffres de Covid là-dedans. Mais l'histoire est assez amusante puisque je pense qu'elle fera réagir certains des auditeurs. Voilà, donc je pense que voilà, qu'on a fait un peu le...
Voilà, Chili, tu nous as pas dit le niveau de mortalité.
Il a été très haut.
Très haut.
Il est très haut, un petit peu en dessous du Pérou et
des voisins.
Oui. Mais c'est pas. Alors, je crois qu'il faut aussi dire, par exemple, que le si on prend en valeur absolue, le Brésil, je crois qu'il y a 1 million de cas, je ne sais plus combien il y a de millions de morts, j'aurais dû regarder, je vais regarder ça tout de suite.
Bah, morts, ils sont presque à 200 000, ils sont numéro 2 maintenant.
Voilà, oui, mais alors, il faut le remettre dans le fait qu'ils sont énormément nombreux,
voilà,
ils sont de 200 millions, voilà, et donc en proportion des habitants, effectivement, c'est pas le pays qui a connu le plus de mortalité, c'est plus les pays que je viens de vous citer. Donc là, voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, je dirais oui et non, je crois qu'il faut quand même mentionner Cuba, qui aussi a eu, alors Cuba est une île, hein, je crois qu'il faut le souligner aussi, je dis ça parce que effectivement, lorsque par exemple le Venezuela se confine, mais que la Colombie incite, on va dire, les émigrés vénézuéliens à rentrer chez eux, etc. C'est pas la même chose que si vous êtes une île, vous contrôlez les accès, les ports, etc. Et puis on connaît le contrôle médical territorial qu'il y a à Cuba, qui a été une des grandes avancées de la révolution cubaine, ce qui a permis à Cuba effectivement de contrôler l'expansion du virus, mais tout en faisant tout de même un grand sacrifice économique, hein, puisque Cuba a dû se replier comme tout le monde, se confiner. On sait l'importance du secteur touristique à Cuba et on sait comment une année creuse, on va dire, a pu impacter l'économie cubaine, qui d'ailleurs connaît depuis le 1er janvier 2021 de très grands bouleversements. Mais il faudra que tu me réinvites pour cela.
Disons institutionnel.
Institutionnel, oui, puisqu'on est passé. Exactement, il y a deux monnaies, ils ont unifié leur monnaie avec toute une série de mesures économiques pour à la fois sortir de la crise économique, faire en sorte que l'unification monétaire n'impacte pas les salaires réels et les retraites, etc. C'est un sujet vaste. On leur souhaite. Le président d'ailleurs, Díaz-Canel, a dit que c'était pas la solution miracle, mais qu'il fallait le faire.
Il faut y passer.
Et que on suivra ça évidemment avec beaucoup d'attention.
Oui, ben c'est aussi des réponses à l'embargo, même à la durcissement des sanctions états-uniennes.
Oui, et je pense que c'est bien de faire un retour à Cuba, ou en tout cas de finir notre petit tour d'Amérique latine par Cuba, parce que malgré donc le blocus, on a vu un que Cuba a envoyé des médecins dans le monde entier.
Absolument.
Y compris en Europe. Hein, oui. On a vu, et d'ailleurs de manière... la façon dont ils étaient accueillis par les populations de Lombardie et du nord de l'Italie, qui avaient été complètement abandonnées par cette chose qu'on appelle l'Union européenne et par la fausse solidarité des pays aux alentours. Parce que je crois que c'est important, quand on parle de solidarité, rappelle-toi, Bernard, que l'Allemagne a pris en charge certains patients Covid, y compris qui étaient en réanimation, en Alsace et dans la région de Strasbourg.
Oui.
Ça, c'est pas de la solidarité. Ça, c'est juste une digue pour éviter que les contaminés du Grand Est français ne traversent la frontière et aillent contaminer. La solidarité, ça aurait été d'aller prendre des Bretons ou des Galiciens, ce qu'ils n'ont pas fait. Là, les médecins cubains viennent d'une île à l'autre bout du monde pour soigner des Italiens
ils n'ont pas d'intérêt.
Exactement, il n'y a pas un intérêt direct à part prouver leur humanité et prouver que la révolution cubaine se définit avant tout par son fort humanisme.
Le plus beau message du castrisme qu'on puisse imaginer, je veux dire.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'au moment où, rappelle-toi aussi, au moment où les pays européens se volaient du matériel médical, hein. La France a volé des masques à l'Espagne, qui elle en a volé à l'Italie, avec des respirateurs qui passaient d'un truc sur le tarmac, les États-Unis avaient piqué des cargaisons. On voit un Occident en dégénérescence, et finalement, certains pays qui s'organisent, et puis pour le coup, là. Donc le retour à Cuba, donc un par ces médecins, donc le rôle qu'ils ont joué un peu partout dans le monde, et puis y compris en France, je rappelle, parce qu'il me semble qu'il y en a eu qui se sont déployés en Martinique.
Oui.
Et puis.
Mais c'est le seul cas.
Oui.
Fait de la proximité.
Mais quand même.
Ça a été accepté.
Par ailleurs,
on peut le dire. Tout ce qui venait des pays non Union européenne atlantique, au coin du médicament, etc., a été refusé systématiquement.
Et oui, et d'ailleurs.
Ce qui n'est pas le cas dans l'Amérique latine, où précisément les autres vaccins ont accès.
Et évidemment, là, c'est là où je voulais en venir précisément. Le deuxième point, c'est que Cuba, malgré le blocus, a développé des vaccins. Alors, certains traitements aussi, puisque Cuba était un des premiers, même avant toute. La polémique, on va dire, sur l'hydroxychloroquine, le Cuba avait proposé l'interféron 2B-alpha, si ma mémoire est bonne, comme une possibilité de traitement. Et puis, ils ont développé donc, des vaccins, Soberania 1, Soberania 2. Donc, ce petit pays sous embargo a quand même les moyens scientifiques, sanitaires, de développer des vaccins, d'abord certainement pour sa population, et puis n'en doutons pas s'il y a du surplus pour les pays du Sud qui en auront évidemment grand besoin.
Oui, et... Je voudrais ajouter, alors il n'y a pas que le savoir scientifique, il y a aussi la possibilité d'accéder à du matériel pour fabriquer un médicament, il faut des appareils.
Évidemment.
S'il y a un embargo qui te permet
évidemment
de les acheter. Tu peux inventer quelque chose et laisser les gens mourir parce qu'on ne t'a pas fourni.
Évidemment, évidemment. Évidemment, ça. Donc, imaginons effectivement un Cuba sans embargo, sans blocus. Comment la capacité des chercheurs cubains pourrait aider l'humanité. Et je ne parle même pas des pays du Nord, mais je pense aux pays de la Caraïbe, de l'Afrique, de l'Amérique latine, etc. etc. Et donc. Donc il y a ce vaccin cubain. Alors c'est pas celui qui est le plus prisé, on va dire, en Amérique latine. Je pense que Cuba développe ce vaccin déjà avant tout aussi pour sa population. En Amérique latine, les vaccins qui sont mises à la portée, en tout cas, de la population, sont les vaccins qui viennent de Chine et surtout le vaccin russe Sputnik V. Dès le début, en plus, il y a eu des accords avec certains pays, y compris pour des tests pour le coup volontaires, hein, pas « ah bon, tiens, fais un vaccin ». Et donc pour le développement de, des différentes phases du vaccin Sputnik V, il me semble aussi que le vaccin donc AstraZeneca, ah, donc anglais, voilà, il me semble que le Mexique avait fait un partenariat mais si vous voulez, il y a alors d'une part dans le Venezuela a reçu ou est en passe de recevoir, il y a, ça a été signé entre le président Maduro et un responsable du ministère de la Santé russe, 10 millions de vaccins pour le Venezuela, donc des vaccins russes. L'Argentine, elle aussi, utilise en majorité, pas seulement, mais en majorité, le vaccin russe. La Bolivie vient aussi de signer des accords pour avoir donc des vaccins Sputnik V. Et surtout, ce qui est, je crois, important, c'est que les campagnes de vaccination massive ont commencé du Mexique à l'Argentine, en tout cas pour les premiers pays qui ont eu les premiers lots de vaccins, les campagnes de vaccination ont commencé. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins. Dans la plupart des cas, et là encore, on voit les enjeux géopolitiques.
Bien sûr.
Le vaccin russe et les vaccins chinois sont évidemment achetés par la plupart des gouvernements, mais pas que. Par exemple, en Colombie, ça ne t'étonnera pas, mais c'est Pfizer qui est majoritaire en tout cas. Et d'ailleurs, le président colombien qui se targuait d'avoir plus de 1 500 000 Vénézuéliens sur son territoire, je rappelle aussi au passage que l'Union européenne a débloqué 3,4 milliards de dollars de notre poche, hein, soit dit en passant, pour les États et les ONG qui se chargent de, des émigrés vénézuéliens. Et malgré ça, le président, le sous-président en tout cas, Ivan Duque de la Colombie, a déclaré que les Vénézuéliens illégaux sur son territoire n'auraient pas accès au vaccin. Donc, si les chiffres qu'il avance sont réels, il va y avoir quand même un grand problème d'immunité collective dans le pays, mais ça, à la limite, c'est son problème. Je pense que quelqu'un lui expliquera. Et puis, il faudrait savoir à quoi servent l'argent que Bernard a donné, que Romain a donné, sans leur consentement d'ailleurs, pour
accueillir
non, mais surtout pour payer des gouvernements et des ONG et sans aucun contrôle sur le résultat final. Parce qu'avec cet argent qu'on a donné au gouvernement colombien, je pense qu'il aurait pu effectivement vacciner les émigrés vénézuéliens. Mais effectivement, donc là, la Colombie, donc sur évidemment, plus développé, enfin, est plus axé sur le vaccin de l'entreprise états-unienne Pfizer. Donc là, on voit aussi tout un jeu géopolitique autour des vaccins, dans lesquels d'ailleurs on a une entreprise finalement privée qui défend les couleurs d'un pays qui d'ailleurs a bien d'autres chats à fouetter en ce moment, alors que dans les autres cas, dans le cas russe, c'est public, hein, c'est
oui,
l'État
fait,
russe.
Oui,
dans le cas chinois, il me semble qu'il y a les deux, il y a une entreprise privée et puis l'État chinois. Donc là, il y a vraiment des enjeux évidemment diplomatiques. Ce qui est intéressant aussi de noter, alors je ne vais pas parler pour toute l'Amérique latine, mais quand même, en regardant et en étant assez assidu de l'actualité sur ce continent, je n'ai pas vu de grands mouvements anti-vax, ni d'ailleurs de grands mouvements sur les libertés individuelles comme on a pu le voir en Occident. Et dans les pays que j'ai visités très récemment, et donc où le débat sur le vaccin est là, hein, est
bien
présent,
sûr, bien sûr.
Tout le monde l'attend. C'est-à-dire que vivement qu'on se vaccine pour pouvoir retourner, ou en tout cas espérer retourner à la vie que nous connaissions précédemment avant cette pandémie. Donc ça, évidemment, là, il y a un gouffre, encore une fois, avec l'Occident, mais un gouffre aussi compréhensible. C'est-à-dire, moi, je pense personnellement, ça n'a rien à voir avec l'Amérique latine, tu m'excuses, je déborde un peu, mais effectivement, si la France avait déjà une grande confiance dans ses dirigeants, que ces dirigeants aient eu une politique cohérente dès le début, que les Français se soient sentis protégés, et qu'un institut public, tiens au hasard, l'Institut Pasteur, développe des millions de doses de vaccins, je ne suis pas sûr qu'il y ait un mouvement aussi fort de rejet de la vaccination. Peut-être que je me trompe, j'ai eu un débat avec un ami hier qui m'a dit « tu te trompes complètement, il y a une forte pensée anti-science en France, mais je ne suis pas sûr que ça soit un débat sur la science. » Je pense que, et en fait, là où je voulais en venir, c'est
plus
que
politique.
Ouais, dans les pays d'Amérique latine, il n'y a pas ce rejet, ou en tout cas aussi fort, parce que il n'y a pas les prémices politiques, on va dire, que nous avons connues, nous, en Europe, en Occident en général.
Cette pandémie est un révélateur des rapports entre les peuples et les gouvernements, quels que soient les régimes, à la limite. Ça, c'est... Puisque le gouvernement, c'est vers lui qu'on se tourne, quand il dit « vous êtes en charge de la population dans sa totalité et de sa santé ». Vous répondez ou vous répondez pas, c'est tout.
Oui, il y a eu un truc très intéressant, c'est que la journaliste Madeleine Garcia de Télésour, une amie, a fait un reportage sur les Vénézuéliens qui revenaient justement de Colombie, en fait, qui étaient quasiment chassés économiquement et sanitairement de Colombie. C'est-à-dire, on ne pouvait plus vivre puisque les petits boulots qu'on faisait, on n'avait plus le droit de les faire. Ouais. Et puis, on était abandonnés à notre sort au niveau de la santé, puisque la santé publique ne nous trouve pas. Ouais, en plus, ouais. Ça n'existe pas en Colombie. Donc, on revient au Venezuela. Et là, les personnes qu'elle interroge, alors, c'est les personnes qui ont réussi à arriver au Venezuela, les témoignages sont terrifiants. D'une part, ces personnes ont été racketées par des mafias sur le chemin du retour. Et puis surtout, on leur disait... ne rentrez pas, Maduro va vous mettre en prison parce que vous avez fui, etc. Et en fait, on voit que les personnes disent, mais en fait, c'est pas du tout une prison, ils nous gardent 14 jours parce qu'ils veulent pas nous renvoyer dans nos familles avec une possibilité d'avoir le Covid. Et ça, je veux dire, bon, je ne l'invente pas, hein, c'est sur YouTube, vous le trouvez,
oui,
c'est,
oui.
C'est le reportage du terrain, encore une fois, c'est le terrain qui, par rapport aux éditocrates, hein, a toujours le dernier mot.
Au point où nous en sommes, oui, je voulais qu'on parle un peu de la fin de l'épisode Guaido, puisqu'on peut terminer là-dessus.
Si ah bah oui, c'est toujours rigolo. C'est toujours pour se mettre un petit peu de bonne humeur.
Voilà.
Ben, moi, je dirais que Guaido est apparu le 28 décembre, dans une session un peu fantasque, soi-disant, de son Assemblée nationale virtuelle. Donc, il est dans sa chambre, hein, à coucher, et puis il fait des réunions Zoom, et on l'a vu très affecté. On a vu un Guaido déformé physiquement, par un psoriasis naissant. Hein. Là, vous pouvez aller sur Les Deux Rives, d'ailleurs, vous verrez les photos. Alors, la photo illustre un article plus profond, hein, des ennuis de santé de Guaido, évidemment. Mais on sent que l'homme stresse un petit peu, et je pense qu'il y a de quoi. Je pense qu'il y a de quoi. L'Union européenne vient dire qu'elle ne le reconnaissait plus en tant que président par intérim. Donc, les États-Unis ont d'autres chats à fouetter.
Oui.
Quoi qu'on en dise, Biden est un impérialiste et il continuera sa politique d'agression contre le Venezuela, ça, il n'y a aucun doute à se faire là-dessus, mais il hérite quand même d'une situation pourrie que lui lègue Donald Trump, et je pense qu'il va falloir assainir très rapidement pour repartir sur des bases nouvelles. Et d'ailleurs, le conseiller aux affaires
latino,
au western hémisphérique affaires, oui. Qu'il a nommé, donc reprend les promesses de Biden, et on sent que la page Guaido est sur le point d'être tournée. Alors, ce qu'il faut voir, je crois que je vais revenir encore un petit peu en arrière, c'est que Guaido est une création des États-Unis dans une opération de changement de régime, dans un premier temps, donc qui a pris du temps, non ? C'est-à-dire que, alors que l'opposition allait participer aux élections de 2018, sur ordre des États-Unis, se sont retirés de la table des négociations, pour une simple raison, c'est que le système électoral vénézuélien, qui est absolument transparent, je l'ai encore pu vu et confirmé lorsque j'étais donc en tant qu'observateur aux dernières élections, mais à toute une série de procès-verbaux où tous les partis politiques signent, vérifient toutes les étapes du processus en amont et donc signent. Donc c'est assez difficile de critiquer la validité d'une élection lorsqu'on a évidemment vu et signé. Donc les États-Unis avaient empêché ça l'année d'avant parce que ils étaient déjà en train de préparer cette opération de changement de régime avec la mise en place d'une présidence parallèle. Ils avaient déjà créé une pouvoir judiciaire parallèle, un pouvoir électoral parallèle. C'est pas d'ailleurs propre au Venezuela. Si tu te rappelles qui est Mustafa Abdeljalil, personne ne s'en rappelle bien évidemment, mais c'était le Guaido libyen, oui, président du CNT, qui a dégagé dès que d'ailleurs les mafias ont pris le pouvoir. Georges Sabra en Syrie aurait bien aimé jouer le même rôle, mais évidemment, personne ne se rappelle des noms de ces gens-là, et je pense que c'est le futur qui attend M. Guaido. Et donc, en fait, très rapidement, donc, s'est enchaîné donc en janvier cette présidence parallèle, qui avait pour but en février, sous couvert d'une opération humanitaire, la conquête d'un territoire à la frontière de la Colombie pour en faire une espèce de Benghazi vénézuélien qui aura amené la reconquête du territoire dans sa totalité, donc une guerre, non ? J'étais d'ailleurs présent lors de cette opération à la frontière colombo-vénézuélienne à l'époque. Voyant que ça n'a pas marché non plus, il y a eu le sabotage de l'industrie électrique et puis un coup d'État manqué le 30 avril 2019. À partir du 1er mai 2019, il est clair que Guaido ne prendra jamais le pouvoir. Donc là, il y a quelque chose qui se module, c'est-à-dire que pour les puissances occidentales, enfin les États-Unis et les territoires qui suivent leur politique étrangère, Guaido est devenu la façade pseudo-légale pour piller le Venezuela. C'est-à-dire qu'au nom d'une présidence fantoche, les puissances occidentales ont mis la main sur les réserves d'or, les comptes bancaires, les biens de la nation vénézuélienne. C'est une opération de spoliation de plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est évidemment énorme, auxquels on laissait quelques miettes aux traîtres, à Guaido et à son clan, qui très vite ont été dénoncés par leur propre camp de corruption, de liens avec le narcotrafic, etc., etc. Et puis surtout, il y a eu toute une rhétorique pour à la fois augmenter les sanctions et provoquer une intervention militaire contre le Venezuela. Vous imaginez bien que quand vous êtes opposant et que vous vivez au Venezuela et que les sanctions, elles vous touchent dans votre vie quotidienne et que vous voyez Guaido parader depuis Washington ou Paris à demander le renforcement des sanctions, ben, vous ne le portez pas dans votre cœur même si vous êtes opposant. Quand vous vivez au Venezuela et que vous voyez Guaido et ses comparses demander à des puissances occidentales de bombarder Caracas et que vous vivez à Caracas, vous dites ce type est malade, c'est moi qui vais mourir, c'est ma famille qui va mourir. Toujours est-il que Guaido, à partir du deuxième semestre 2019, était déjà disqualifié, il était déjà mort. Il était tellement en état de mort clinique que Donald Trump a décidé, avec, encore une fois, les pays soumis à la politique étrangère de Washington, d'insuffler encore son image, de regonfler un peu la baudruche. Et donc, on se rappelle que tout début 2020, il a fait une tournée donc, dans ces pays assujettis à la politique étrangère de Washington. On a pu voir M. Guaido avec Wurtz en Autriche, M. Guaido avec Boris Johnson en Angleterre, avec Emmanuel Macron à l'Élysée, etc., etc., avec Vox et toute l'extrême droite en Espagne, et puis applaudi par les démocrates et les républicains lors du discours à la Nation, donc en janvier dernier. Voilà. Sauf que ça n'a pas marché. La pandémie a révélé non seulement qu'il n'avait vraiment aucun pouvoir, mais qu'en plus, Il se foutait totalement de la vie des Vénézuéliens, puisqu'il a promis des bons de 100 dollars pour tout le personnel soignant du Venezuela. L'argent a été débloqué, elle n'est jamais arrivée. Donc elle est arrivée quelque part. L'argent a été débloqué des États-Unis, oui, parce que ces gens-là sont des salariés des États-Unis.
Oui, bien sûr.
Et l'argent que les États-Unis débloquent, c'est l'argent du Venezuela. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie du mur à la frontière mexicaine a été payée avec l'argent du Venezuela. 608 millions de dollars du Venezuela ont servi à construire un tronçon du mur à la frontière mexicaine. Et encore une fois, ce n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas malheureusement les deux rives qui pour le coup étaient sur le terrain, c'est Univision, une chaîne de droite, une BFM des États-Unis qui avait révélé ça. Donc, si vous voulez, Guaido, et là, c'était plus possible. Et en fait, sa pseudo-légitimité venait du fait qu'il avait été, en tout cas il y a 2 ans, lors de cette opération de changement de régime, président de l'Assemblée nationale. Or, tous les 5 ans, il y a des élections au Venezuela, parlementaires, il y a eu des élections. Donc là, il n'est plus rien. Et aujourd'hui, il doit désormais rendre des comptes. Et je pense que si, dans mon cas, j'aurai à rendre des comptes à tous les gens que je vais énumérer, à qui lui doit rendre des comptes, je pense que moi aussi j'aurai du psoriasis. Pourquoi ?
Je ne le souhaite pas.
Mais je ne me serais jamais mis hors la loi comme ça, je n'aurais jamais trahi mon pays comme ça non plus. Juan Guaido doit rendre des comptes à une entreprise de mercenaires,
exact,
à qui l'a employé pour envahir le Venezuela, avec un contrat qui stipulait qu'ils avaient, évidemment, outre l'immunité...
C'est celui du mois d'avril.
Exactement, celui du mois de mai 2020. Donc Silvercorp, une entreprise de mercenaires, c'est-à-dire des gens capables de vous égorger à n'importe quel coin de rue, des snipers, des poseurs de bombes, etc. Et à qui Juan Guaido a défraudé de 14 millions de dollars. Il y a une plainte aux États-Unis contre Juan Guaido. Bon, il faut qu'il rende des comptes à ces gens-là. Moi, rien que pour ça, j'aurais du psoriasis. Il doit aussi rendre des comptes au cartel narco-paramilitaire Los Rastrojos, avec qui il avait fait une alliance, et à qui il avait promis le contrôle d'une portion de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Ça, nous l'avons su après, par des révélations de paramilitaires arrêtés qui ont dévoilé pourquoi ils étaient aussi proches de
Guaido. C'est-à-dire contrôle de tous les trafics.
Exactement, contrôle de tous les trafics, la drogue, évidemment, traite humaine, trafic d'essence, etc., etc.
Et les produits subventionnés au Venezuela qui sont beaucoup moins chers qu'en Colombie.
Oui, alors entre autres, mais pour tous les trafics possibles et inimaginables. Sauf que il leur a promis ça, et Los Rastrojos ont dû faire face à l'action très efficace du préfet de la région du Táchira, Freddy Bernal, qui dès qu'il s'approchait un peu trop leur envoyait des rafales de plomb. Et une grande partie, en tout cas, de la structure de ce cartel narco-paramilitaire qui s'était implanté du côté vénézuélien a été démantelée. Ses membres ont été arrêtés ou sont tombés morts lors d'affrontements avec l'armée ou les forces spéciales de la police vénézuélienne. Donc, Guaido doit rendre des comptes à ces gens-là aussi, puisqu'il leur avait promis monts et merveilles, et vu le résultat, il doit leur rendre des comptes. Il doit rendre des comptes aussi aux hommes de l'ombre de Washington, qu'il a quand même dupé, et puisqu'il a échoué. J'aimerais pas, moi non plus, leur rendre des comptes. Il doit rendre des comptes à la justice anglaise, puisque pour essayer de spolier le Venezuela et de récupérer 14 tonnes d'or qui appartiennent au Venezuela et qui sont bloquées à la Bank of England, Juan Guaido avait donc engagé des actions judiciaires contre la Banque centrale du Venezuela, actions judiciaires qu'il a perdues, et donc il doit 500 000 euros à la justice anglaise. Et là, comble du comble, Guaido a dit « je ne peux pas payer à cause du blocus ». Là, les Anglais, ça les a fait, à mon avis, pas très rire, il faut qu'ils leur rendent des comptes. Et puis, il faut qu'ils rendent des comptes à la justice du Venezuela.
Quand même.
Là, dans la première session de la nouvelle Assemblée nationale, il y a eu des thèmes qui ont été mis en avant, notamment la lutte contre les féminicides au Venezuela, le renforcement de l'État communal et aussi la punition pour les crimes contre la nation qui ont été opérés par l'Assemblée nationale précédente, donc présidée entre autres par M. Juan Guaido. Tu veux que je te dise un truc, Bernard, qui est assez rigolo là-dessus ? C'est qu'il y a une commission spéciale de l'Assemblée nationale vénézuélienne pour justement punir les crimes contre la nation qui ont été commis par la précédente Assemblée nationale, non ? Puisque on parle de dizaines de milliards de dollars, hein, on parle, c'est pas rien, là. C'est une spoliation de tous les biens de la nation avec des réseaux de corruption gigantesques qui éclatent aujourd'hui dans les médias mainstream. Enfin, pas dans les médias mainstream, dans les médias mainstream anglo-saxons. Voilà. Le Washington Post, mon Dieu, c'est pas Granma, c'est pas un journal révolutionnaire, vient de faire un article montrant comment Juan Guaido, là aussi il va falloir qu'il rende des comptes, mais les hommes de Juan Guaido rackettaient des entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs des États-Unis, en leur faisant miroiter la possibilité qu'ils remportent des biens de la nation vénézuélienne basée à l'étranger. Grosso modo, par exemple, tiens, regardez, telle raffinerie dans tel pays appartient au Venezuela, est-ce que vous la voulez, ta, ta, ta. Et les sbires de Juan Guaido disaient, d'accord, mais il faut faire des avances de 250 000 dollars, etc., etc. Cette enquête avait déjà été menée en septembre-octobre. Pour ceux qui lisent les deux rives, évidemment, le Washington Post ne vous apprend rien. Mais puisque nous nous étions fait l'écho de cette enquête qui avait été menée par une opposante radicale au chavisme, et le Washington Post reprend effectivement les allégations avec d'autres témoignages. Ça, c'est des délits fédéraux. Donc il va falloir aussi que les sbires de Guaido rendent des comptes à la justice des États-Unis. Donc voilà, là, on peut légitimement penser que son psoriasis ne vient pas de nulle part et que la page Guaido, comme nous l'avions annoncé depuis au moins un an, et s'il n'y avait pas eu l'opération de gonflage de Baudruche en début 2020, on aurait pu parler de Guaido dès 2020, la page Guaido est en train d'être tournée, la page de ce changement de régime est en train d'être tournée, viendront d'autres stratégies, non ? Un problème, oui, mais la page Guaido est en train d'être tournée. Maintenant, à ceux qui l'ont soutenu, tant dans les médias que les politiciens, que les ONG, etc., qui l'ont soutenu dès demain, alors qu'ils savaient que les scandales étaient déjà sortis, notamment sur ses liens avec les narcotrafiquants, avec les paramilitaires, avec les entreprises de mercenaires, les barbouzes, les corrompus, et j'en passe, parce que j'ai même pas, si je me mets à parler de tous ces réseaux mafieux, parce que finalement, aujourd'hui, il apparaît aux yeux de tout le monde que l'entourage de Guaido et Guaido en personne était un gang mafieux. Voilà, et ben, tous ces gens-là, devront répondre. En tout ça, voilà, nous avons vu que beaucoup de personnes ont soutenu un gang mafieux qui n'a pas réussi à prendre le pouvoir.
Comment le Sénat de la République française peut travailler avec un gang ?
Entre autres, et comment un sénateur de la République française peut comparer Guaido à Charles de Gaulle ? Parce que ça, on l'a entendu aussi. Comment ? C'est une grande question.
Alors, ça veut dire, on peut imaginer que cet argent, les 250 000 dollars, distribués à Rose, toutes les hypothèses sont possibles.
Les hypothèses peuvent, évidemment, là, quand on a affaire à des gens qui sont aussi
dans
le grand banditisme, tout peut évidemment arriver. Puis il y a aussi un élément central, c'est que Guaido n'est pas le chef. Guaido n'était qu'un...
Voilà, qu'un... qui tire la ficelle.
Qui tire la ficelle, c'était Leopoldo López,
qui
lui est un des dirigeants historiques de l'opposition radicale vénézuélienne, qui est membre de l'oligarchie vénézuélienne, tout comme d'ailleurs la plupart des chefs de fractions de l'opposition vénézuélienne. Ce sont tous des noms qui étaient les noms des dominants il y a 200 ans, il y a 300 ans. Hein. Mais Guaido, c'est le fils d'un chauffeur de taxi, donc aussi sacrifiable. Et Leopoldo López est en Espagne.
Oui.
Il vient de faire une tournée fin décembre en Colombie pour d'ailleurs... organiser une opération militaire qui a échoué le 30 décembre 2020. On ne va pas rentrer non plus dans les détails, mais rien ne s'arrête. Mais voilà, Leopoldo López a repris son rôle finalement, puisque Leopoldo López était aux arrêts domiciliaires, d'abord chez lui à Caracas, d'abord en prison à Caracas, d'abord ensuite chez lui aux arrêts domiciliaires, et puis ensuite après le coup d'État du 30 avril 2019 à l'ambassade d'Espagne. Et donc aujourd'hui, il est libre en Espagne, il est libre de parcourir le monde. Donc, il n'a plus besoin de Guaido. Donc, moi aussi, si j'étais Guaido, je pense que j'aurais du psoriasis, mais je vais baisser une seconde mon masque, et tu peux regarder, je n'en ai pas. Et je n'en ai pas parce que, voilà, je ne suis pas membre d'un gang mafieux et le prête-nom d'une entreprise de spoliation de mon propre pays.
Non, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que nos gouvernements, le nôtre, notre Sénat, etc., acceptent ce type de travail alors qu'ils savent très bien à qui ils ont affaire.
Bien sûr. Et puis s'ils ne le savent pas, c'est encore plus grave.
Ah, alors, ils sont totalement irresponsables et déplacés.
S'ils ne le savent pas, c'est encore plus grave. Et effectivement, on a pu voir que la France n'a pas été la plus réservée dans cette affaire de Guaido. Depuis Caracas, elles étaient souvent en première loge.
Je témoigne du choc que j'ai reçu en voyant ces séquences au Sénat de la République.
Oui, alors avant de recevoir Guaido via Zoom, donc si ma mémoire est bonne, le 2 décembre 2020, ils avaient aussi reçu Laurent Salet. Alors Laurent Salet, c'est quand même un extrémiste vénézuélien. Qui a infiltré l'école de guerre de Colombie, qui a des liens avec les paramilitaires colombiens, qui a été expulsé de Colombie parce qu'il était trop dangereux, qui a des liens, et là je n'invente rien, encore une fois sur les deux rives vous trouvez un article que j'avais écrit à l'époque sur ces liens aussi avec des groupuscules néo-nazis colombiens. Laurent Salé s'était targué d'avoir reçu à Cúcuta, donc la ville frontalière avec le Venezuela, du C4 pour plastiquer des ponts et des centres commerciaux au Venezuela, à San Cristobal, dans la ville donc du coup de l'autre côté de la frontière. Et c'est ce type-là qui a reçu, alors d'une part, le prix Sakharov en 2017 de l'Union européenne, mais surtout qui a été reçu au Sénat et qui a été décoré de la médaille du Sénat et à qui on a dit vous transmettrez à vos amis vénézuéliens le soutien de la République française. Mais c'est, alors d'une part, le Sénat n'a rien à voir dans la définition de la politique étrangère de la France, mais en plus c'est comme si Erdogan aurait reçu les Kouachi.
Oui, mais exactement.
Mais ça aurait été le scandale du siècle. Et à raison d'ailleurs. Alors, j'ai pris Erdogan, ça aurait pu être n'importe quel autre chef d'État, mais c'est, puisque là c'est de ça. Donc effectivement, ça montre surtout, et ça c'est évidemment lamentable, ça montre la perte totale d'autonomie et d'indépendance de la politique étrangère française. Là, on est dans un atlantisme et un suivisme de la politique étrangère américaine qui est choquant.
Dans ses pires aspects.
Avec qui est choquant. C'est, si tu te rappelles, il y a eu un long article, enfin une longue interview d'Emmanuel Macron au mois de novembre dans une revue, notamment sur sa vision de la politique étrangère.
Oui.
Une vision assez ambitieuse, on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est une vision assez ambitieuse de la France. Le problème, c'est qu'à mon sens, il met la charrue avant les bœufs, parce que la France, lamentablement, par ce genre d'opération et parce qu'elle est vue par un suivisme aveugle des États-Unis et une perte totale d'autonomie au niveau de la politique étrangère, n'est pas prise au sérieux. L'ambassadeur, dans une interview dans un journal de droite à Caracas, l'ambassadeur français avait déclaré que la France était incontournable à Caracas et que elle jouait un très grand rôle. Sauf que, évidemment, lorsqu'on a vu quel pays jouait les intermédiaires entre des grandes figures de l'opposition, comme M. Capriles, ou d'autres figures de l'opposition et le gouvernement, nous avons vu la Turquie, les Russes, et accepté d'ailleurs par les membres de l'opposition aussi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la République bolivarienne du Venezuela n'a plus d'ambassadeur, elle a un chargé d'affaires.
Oui.
Donc ce qui montre aussi
l'absence de poids.
Et je veux juste quand même souligner à tes auditeurs que moi, ça me chagrine profondément, parce que la déliquescence de la voix de la France à l'étranger, ça, c'est pas si vieux que ça, ça s'est amorcé à mon sens sous Sarkozy, Hollande, et aujourd'hui on a les gesticulations de notre président au Liban qui n'aboutissent à pas grand-chose. Les mots avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et puis ce suivisme quasi aveugle des faucons américains, parce que là il n'y a même plus de demi-mesure. Et là d'ailleurs ça va être terrible, puisque si M. Biden décide de mettre une croix sur l'opération Guaido de manière plus ou moins, on va dire, diplomatique, c'est-à-dire ça ne va pas se faire tout de suite, etc., on va voir.
L'Élysée se couchera dans
les pays qui l'ont reconnu ne plus le reconnaître. C'est terrible. Et à mon avis, il faut au niveau de la politique étrangère française, reconstruire un véritable récit du rôle de la France, des objectifs stratégiques, avant de vouloir sauver le monde, parce qu'il y a un véritable problème de crédibilité, et le Venezuela, dans cette affaire-là, n'en est qu'une illustration de plus.
Parmi les plus noires, certainement, mais une de plus, c'est là. Au point où on en est, Romain, est-ce que avant de partir pour ton prochain voyage, tu nous dis quelques mots sur ce prochain voyage?
Oui.
Et puis on te sollicitera à ton retour, bien entendu.
Oui, tout à fait. Alors,
10 minutes.
Alors, dans quelques semaines, mais c'est très proche, le 7 février, il va y avoir donc les élections présidentielles et législatives en Équateur. Alors ça, c'est très important. D'une part, parce que pour ceux qui préconisaient une fin de cycle de la gauche à partir de 2015, on a vu que le centre-gauche avait regagné, on va dire, la présidence en Argentine depuis, donc décembre 2019. Un an avant, le centre-gauche avait aussi gagné au Mexique, avec un processus assez dynamique d'ailleurs. Luis Arce, en Bolivie, a chassé la dictature bolivienne de manière démocratique, s'est imposé par les urnes. Le chavisme s'est confirmé dans les urnes
pour les législatives, oui.
Voilà, pour les législatives. Il y a eu l'épisode chilien, alors avec toutes ces contradictions, je ne rentrerai pas là-dedans, mais qui a quand même forcé l'élite chilienne à organiser ce référendum sur une nouvelle constitution. Et rappelez-vous qu'il y a une élection présidentielle aussi au Chili dans cette année 2021. Elle est très chargée cette année.
Oui, oui.
Et donc là, voilà, c'est le tour de l'Équateur. L'Équateur, c'était un pays emblématique de la résistance au cours de la première décennie du XXIe siècle, avec Rafael Correa comme président. C'est aussi un symbole de l'intégration régionale. Je rappelle que UNASUR, avant que le traître Lénine Moreno... Alors, quand je dis le traître Lénine Moreno, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un fait.
Moreno
fait élire, il a trahi. Donc le traître Lénine Moreno a mis fin et a même donné les locaux d'UNASUR au mouvement indigène pour en faire une université indigène. C'est encore un autre sujet. Mais bon... L'Équateur, même si c'est un petit pays, symboliquement est aussi très important. Et puis surtout, le candidat de l'espérance, comme il l'appelle, le candidat progressiste, Andrés Arauz, qui est aussi le candidat de Rafael Correa, qui est exilé en Belgique, caracole en tête des sondages. Non, le dernier sondage lui donnait 36,5% des voix. Donc évidemment, ça va être une élection très importante. Et là, je vous invite à aller sur le site desdeuxrives.info, parce que on va vraiment se focaliser sur l'Équateur dans les prochains jours pour expliquer un peu les enjeux, pour montrer comment le pouvoir de l'État équatorien s'est acharné sur la candidature coréiste pour éviter qu'elle puisse avoir un débouché électoral. Nous allons aussi montrer toutes les tentatives de lawfare, c'est-à-dire de judiciarisation de la politique. L'Équateur, sous Lénine Moreno, est devenu l'épicentre du lawfare dans le monde. Et puis, dans les jours et les semaines qui viennent, avant l'élection tout du moins, nous allons faire plusieurs interviews d'acteurs politiques. D'accord. Pour donner des clés, comprendre les enjeux de cette élection et évidemment vous offrir un autre point de vue. Et puis, là, je vais vous solliciter, auditeurs de Comaguerre, les chroniques de Comaguerre. Je vais aller couvrir les élections pour les deux rives
À Quito,
exactement. Et comme vous vous en doutez, aucun milliardaire ni aucun État ne soutiennent les deux rives. Donc, nous faisons appel aux contributions citoyennes, financement participatif, pour pouvoir couvrir les frais de ce voyage et pouvoir vous offrir cet autre point de vue si nécessaire pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Donc voilà, suivez les deux rives sur le thème de l'Équateur et si vous voulez faire une contribution, n'hésitez pas à aller sur le site des deux rives, www.lesdeuxrives.info, le 2 en chiffres.
Une question que j'ai en moi par rapport à ce traître Lénine Moreno, c'est un monsieur qui a perdu l'esprit. Donc comment on organise et qui organise un retournement de veste de cette ampleur et de ses conséquences? Est-ce qu'on a des idées? Est-ce qu'on y voit un peu clair? Qu'est-ce qui va devenir le mois prochain?
Alors lui, qu'est-ce qui va devenir? Je pense que...
il va avoir du psoriasis.
Il peut avoir un peu de psoriasis parce que figurez-vous qu'il a quand même fait. Moi, rien pour ça, je lui donnerai une médaille. Puisqu'il est à la fin de son mandat et il a un soutien populaire inférieur à celui de François Hollande à la fin de son mandat. Il a entre 6 et 8% de soutien populaire. Ça veut dire, c'est assez fantastique. Ben, Lénine Moreno n'était pas non plus un grand révolutionnaire patenté. Hein. C'était quelqu'un qui représentait plus le centre ou la droite de la révolution citoyenne à l'époque. Parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que lorsqu'il trahit et qu'il fait vraiment un virage à 180 degrés, il n'est pas seul. Voilà. Il n'est pas seul. Voilà. Il y a toute une partie des députés aussi du mouvement qui ont trahi. Et donc,
le souterrain qui a été fait quelque part.
Oui, tout à fait. Là, il y a eu vraiment des reculs mais absolument sur tout. Et comme à chaque fois chez les traîtres, il en fait plus que les autres, généralement, notamment en politique extérieure. On se rappelle de son ministre de la Défense qui avait dit que les Galapagos devaient redevenir un porte-avions des États-Unis dans la région. La répression ignoble qu'il y avait eu contre le mouvement indigène, syndical et social pendant la révolte d'octobre 2019, plus tout un mouvement de persécution judiciaire qui s'est ensuivi, hein, y compris contre des élus, oui. C'est-à-dire contre la gouverneure, vous appelez ça préfet, mais en fait ce qu'on appellerait présidente de région, non, oui. Qui a été élue par le peuple de la région capitale, donc de la région de Pichincha, oui. Qui a été mise en prison, qui a un procès, qui est sortie sous bracelet électronique, alors qu'il n'y a aucune preuve. Aucune preuve, ce sont des jugements complètement politiques, l'utilisation de la politique pour, en fait, détruire le mouvement de Rafael Correa et détruire les cadres qui auraient pu, d'une manière ou d'une autre, prendre la succession de Rafael Correa. Seulement, ils réagissent un peu comme s'ils étaient face à un organigramme d'une multinationale. D'accord. Et ils n'ont pas compris que le mouvement de Rafael Correa, au-delà de cadres très bons et très capables et avec doués de fort charisme, et surtout un mouvement politique, un mouvement d'espérance, et qu'il est poussé par toute une partie du peuple. Donc, évidemment, ces tentatives n'ont pas abouti. Et on verra qu'est-ce qu'il adviendra dans cette élection. Est-ce qu'il y aura des fraudes pour éviter que, en tout cas, que le candidat du coréisme ne gagne au premier tour? Au deuxième tour, ça risque d'être un peu plus compliqué, même si on ne peut rien dire. Mais au deuxième tour, il risque d'y avoir des alliances tout contre ce mouvement. Mais en tout cas, c'est un élément à ne pas... éloignés. Il y a des pressions juridiques, y compris contre les membres du Conseil national électoral, qui ont laissé le candidat s'inscrire. Enfin, c'est vraiment là, on n'est plus dans un état de droit, et c'est fort dommage parce que s'il y avait quelque chose vraiment à retenir des mandats de Rafael Correa, il y a beaucoup de choses, hein, mais. Il avait vraiment réussi à renforcer l'institutionnalité de l'État équatorien et à faire en sorte que l'État, au service de tous, puisse refonctionner comme institution. Et ça, ça a été complètement détruit par les 4 ans de pouvoir de Lénine Moreno. Donc, suivez les deux rives, voilà. Et contribuez à nos reportages, parce que les analyses, les interviews... les articles de fond, c'est très utile, mais rien ne remplace les reportages de terrain. Donc évidemment, je compte sur vous.
Merci, merci Romain. Donc on prend rendez-vous tout de suite pour ton retour d'Équateur.
Sans problème.
En espérant une bonne nouvelle. Donc là, on est comme dans la situation bolivienne, c'est-à-dire 40% au premier tour, c'est bon.
Alors 40% au premier tour avec 10% de différence avec le deuxième, effectivement, c'est bon. Enfin, la personne gagne. Voilà, sinon, il y a un deuxième tour qui se fait pas 15 jours après, hein, qui se fait beaucoup plus tard. Vous voyez, je crois que c'est fin mars ou un truc comme ça. Donc, ça laisse énormément de temps à la fois pour des campagnes, pour des alliances, pour des c'est pas immédiat. Donc, on verra de quoi il retourne en Équateur, mais on aura certainement beaucoup de choses à dire, Bernard, cette année, parce que. Là, il y a les élections en Équateur le 7 février. Le 27 février, sous la pression populaire, il y a, alors, une fois encore un peu biaisé, mais il y a un référendum pour une réforme constitutionnelle en Haïti.
Exact.
Le 11 avril...
C'est très important.
Oui, alors c'est un peu biaisé parce que les réformes ont été imposées par... elles n'ont pas été travaillées depuis la base, mais imposées d'en haut. Mais il n'empêche que c'est toujours évidemment des avancées. Puisqu'il y aura aussi des élections présidentielles et législatives en Haïti au mois de septembre, et puis des élections municipales au mois de décembre. Donc là, en Haïti, ça va être une année d'élections. Le 11 avril, il va y avoir l'élection au Chili, donc de députés à ce Conseil constitutionnel, pas une assemblée constituante. Le 11 avril, le même jour, quelques kilomètres plus au nord, il va y avoir l'élection présidentielle au Pérou.
Exact.
Ça, évidemment, le Pérou qui est en crise profonde depuis 30 ans et aiguë depuis 3 ans, là aussi, il peut se passer des choses très intéressantes. En juillet, nous avons des élections parlementaires au Mexique, ce qui nous donnera aussi l'occasion de reparler du Mexique. En septembre, donc le 19 septembre, des élections en Haïti, donc présidentielles. Et puis, septembre ou octobre ? Non, je crois que c'est octobre, c'est le 19 octobre, autant pour moi. En novembre, c'est très chargé. Le 7 novembre, il y a les élections présidentielles au Nicaragua. Suivi, une semaine plus tard, des élections présidentielles et législatives au Chili. Suivi à la fin du mois de novembre, le 27 novembre, des élections présidentielles au Honduras. Donc, comme tu peux voir, et puis en décembre, les élections municipales en Haïti. Donc, comme tu peux voir, toute l'année va être marquée par une série d'élections, de processus électoraux, de lignes politiques qui vont bouger en Amérique latine. Ça va être passionnant. On espère, avec les deux rives, pouvoir, avec vos contributions, couvrir la plupart de ces événements électoraux, parce qu'évidemment, quand on y va, on ne fait pas que de l'électoral, on en profite pour faire des reportages et de prendre le pouls du mouvement social. En tout cas, ça va être une année très riche sur le plan politique et social en Amérique latine.
On vous souhaite une excellente année au peuple d'Amérique latine. Merci, merci Romain.
Merci Bernard.